Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'éducation et autour de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Nous sommes une nouvelle fois en compagnie de Philippe Alexandre, qui est professeur émérite pour l'Université de Nancy. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle donc qu'avec vous, nous avons commencé plusieurs émissions sur la thématique de l'histoire de la Ligue de l'enseignement des Vosges, qui fêtait en 2023 ses 90 ans. Et vous nous avez parlé donc de l'histoire de la Ligue de l'enseignement au niveau national et des évolutions que celle-ci a pu connaître avant de s'appeler Ligue de l'enseignement, bien entendu. Nous évoquions différents termes un petit peu désuets ou, je vais dire, moins utilisés ou pas forcément compréhensibles aujourd'hui, radicaux, libéraux, républicains. Tout cela peut-être aujourd'hui, peut-être mal interprété. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ces termes-là pour qu'on puisse avancer dans la présentation de cette histoire de la Ligue de l'enseignement des Vosges ?
Oui, tout à fait. Républicain, c'est une notion bien vague. C'est une notion bien vague et il y a eu... très tôt, une différence entre ce qu'on appelait les opportunistes, le mot dit tout ce qu'il veut dire, hein, n'est-ce pas ? C'est aussi une méthode de gouvernement plus fondée sur le réalisme, la souplesse, la faculté d'adaptation face, à Gambetta et à ses héritiers, hein, donc les radicaux, hein, ceux qui défendent avec beaucoup plus d'énergie et je dirais moins de souplesse, hein, certaines idées républicaines. Et ces radicaux, au début du 19e siècle...
Est-ce qu'on peut dire que finalement, radical, c'est un petit peu une tendance d'un dynamisme beaucoup plus engagé, là où un libéral va être davantage à l'écoute et va jauger, on parle d'opportunisme, de l'équilibre que ça peut apporter ou du déséquilibre que ça peut créer?
Eh oui, on connaît Émile Combes, hein, le petit père Combes, la politique du bloc, hein, la politique du bloc au début du XXe siècle, hein, qui arrive donc au pouvoir au début du XXe siècle et qui va mener toute cette politique laïque, hein, qui amènera en 1905 à la séparation des églises et de l'État. Hein, eh bien, et la différence, on va le voir, est importante entre les républicains progressistes ou libéraux, comme on dit à l'instant, qui sont devenus libéraux parce que libéral, ça signifie qu'on s'oppose, hein, à la politique des radicaux. Hein. Et ces républicains libéraux n'hésitent pas à se rapprocher de l'Église, hein, et des partis plus conservateurs. Hein, et on le voit bien dans les Vosges, il y a ce bloc. Bon, le nom de Jules Méline est connu dans les Vosges. Hein, il est le représentant de cette aile, hein, de républicains plus à droite, hein, qui, lors d'élections, bénéficie de voix de républicains plus proches, hein, du catholicisme, etc. Donc, à Épinal, on sent également cette tension. Et le cercle d'Épinal est aux mains des radicaux. Hein, et les progressistes, dans leur presse, vont se moquer, hein, de la politique de l'adversaire dans ce qu'elle a de radical, hein, d'outrancier.
Oui, c'est ça, la difficulté de trouver le juste milieu.
C'est le contraire de la politique du juste milieu.
Alors, je vous laisse poursuivre sur cette période. Donc, il y a cette politique qui va faire que, à Épinal, pendant 10 ans, ça va un petit peu s'endormir. Et puis ensuite, à partir de quelle année, on retrouve une vie des œuvres laïques sur le bassin spinalien?
Voilà, c'est avec la renaissance de cette ligue rénovée, ou de ce cercle, hein, spinalien. C'est en 1909, hein, que cela se passe, comme qu'on vient de le dire, sous Abel Ferry. Et puis, sous l'impulsion également de personnes qui vont être appelées à jouer un rôle de plus en plus important, je pense entre autres à Léon Schwab, hein, qui sera maire d'Épinal, comme on le sait, hein, et qui, dès cette époque, apparaît parmi ceux qui font la promotion de ce que j'appellerais le tournant social de la Ligue. Hein, on l'a dit, les affaires d'enseignement sont devenues, peut-être moins une priorité. Du fait que la République
maintenant c'est au niveau national
généralisé, c'est ça, l'enseignement, hein, l'a rendu laïque, gratuit et obligatoire. Le nombre des écoles a progressé, la fréquentation scolaire a également progressé.
Filles et les garçons reçoivent la même éducation.
Voilà. Et donc ces radicaux opposés à ces libéraux se rapprochent des socialistes. Donc quand on regarde la composition du bureau de la Ligue en 1909, on s'aperçoit qu'il y a Célestin Pernaud, imprimeur, hein, de l'imprimerie Nouvelle à Épinal, qui publie depuis 1902 L'ouvrier vosgien. Et Célestin Pernaud est celui qui, un de ceux qui ont organisé le mouvement syndical dans les Vosges. Il y a également dans le comité un membre, Charles Thiébault, un ouvrier textile de Saint-Laurent qui est dans au conseil municipal de Saint-Laurent. Hein. Donc on voit bien ce rapprochement entre les radicaux et les socialistes. Hein. Mm-hmm. Et c'est dans ce contexte que se produit ce que j'appelais le tournant social des œuvres. Et l'œuvre qui est dite l'œuvre capitale du cercle d'Épinal, ce sont les colonies de vacances. Ça, c'est vraiment le fait majeur et qui nous amène, j'allais dire, vers la Ligue moderne, la FOLE, la Fédération des œuvres laïques, au sein de laquelle, donc, les colonies de vacances jouent un rôle tout à fait important. Voilà.
Donc, à nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant et qui se met en place.
Voilà.
Mais ce que je vous propose, Philippe Alexandre, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette émission. Ce sera toujours sur cette même antenne, alors surtout, restez connectés sur les ondes de Radio Cristal. À tout de suite. Partie de notre magazine consacré à la thématique de l'éducation et autour de l'histoire de la Ligue de l'enseignement des Vosges, en compagnie de Philippe Alexandre, qui est professeur émérite à l'Université de Nancy. Vous nous expliquiez comment la FOLE, la Fédération des œuvres laïques, avait mis en place différentes actions au fur et à mesure de son histoire, et on se rend compte que finalement ces actions ont pour vocation toujours dans une volonté sociale de permettre aux enfants qui peut-être n'ont pas la possibilité d'avoir des vacances de pouvoir
absolument
s'occuper et de s'occuper de manière citoyenne. Entre guillemets.
Alors, qui sont les jeunes colons? Ce sont des enfants des quartiers ouvriers d'Épinal. Donc, on demande au directeur d'école de bien choisir les jeunes qui vont participer à ces colonies de vacances. La première année, en 1911, ils sont une trentaine. Puis, le chiffre montera, on va dire, dans les années, au début des années 1920, à 160, en gros.
Et en quoi consistaient, à l'époque, au tout début, ces colonies de vacances?
Oui. Alors, les jeunes sont placés chez des paysans, des lois, de tendons, dans des fermes, dont les habitants présentent toutes les garanties. Ce sont des familles, on va dire, tout à fait respectables. Et je vois que dans les règlements de ces colonies de vacances, on parle également de sobriété, ce qui est tout à fait important à l'époque. Donc, du point de vue moral, j'allais dire, ces jeunes doivent être dans un contexte, dans un milieu
cadre.
Tout à fait favorable. On pourrait dire édifiant, du point de vue social. Voilà. Bonne famille.
Comme bien sûr.
Voilà. Et les jeunes s'y trouvent bien, donc ils restent 3 semaines. Des membres du comité en vélo se rendent à Tendon, à Éloi, pour surveiller, pour voir comment le séjour s'effectue, comment les choses se passent. Les jeunes reviennent ravis parce que ils ont bien mangé, et ils ont eu, eux qui étaient dans des milieux où on n'avait pas forcément les moyens de bien manger tous les jours, on est dans la bonne saison, c'est au mois d'août, donc on mange des fruits, du lait, du fromage, etc. Donc ça c'est l'aspect, j'allais dire, social, l'aspect aussi hygiéniste, on connaît ce mouvement hygiéniste à partir de la fin du 19e siècle où il s'agit de travailler dans le sens de l'hygiène sociale, combattre la tuberculose, combattre la faim dans les milieux défavorisés. Donc on le voit bien, on cherche à présenter toutes les garanties possibles dans ces colonies de vacances, dans l'organisation de ces colonies de vacances. Et un docteur d'Épinal, le docteur Lacour, assure une visite médicale avant le départ des jeunes colons et à leur retour, on mesure la capacité thoracique, le poids, enfin divers critères qui sont publiés dans le bulletin de la Ligue. C'est tout à fait émouvant que de relire ça maintenant. Et on est content parce que, voilà, les jeunes ont bien profité, comme on dit, de leur séjour en montagne, dans un lieu sain. voilà une œuvre qui prend sans cesse de l'importance et qui est soutenue par beaucoup de monde, hein. Surtout par des souscriptions faites donc au niveau de la ville ou de la région, les subventions du Conseil général,
subventions faut bien payer tout ça, hein.
Des communes, voilà, et de diverses organisations. La Libre Pensée, Ligue des droits de l'homme, les loges, hein, apportent leur contribution financière au développement de cette nouvelle œuvre qui est appelée à prendre donc de l'importance dans l'entre-deux-guerres. Hein.
Et donc, on en arrive, j'imagine, progressivement à 1925,
oui,
où se fédère enfin tout ce mouvement.
Oui. Alors, en 1925... La situation est assez prospère au niveau du département des Vosges. Les œuvres ont pu reprendre leurs activités dans les différents cercles du département. Hein. La presse en apporte des témoignages fort intéressants. Remiremont, c'est un avocat qui est à la tête de tout cela. Je dirais même que le cercle de Remiremont a, oui, parfois des allures un petit peu mondaines. Il suffit de lire les comptes rendus de presse. Hein. On organise des soirées de gala avec le chansonnier Georges Schepfer, par exemple. Hein. Et puis, on fait des soirées, on organise des soirées à caractère varié qui unissent à la fois le chant, le théâtre, pas seulement la conférence. D'ailleurs, on préfère le terme causerie à celui de conférence. Ça fait moins pédant, ça n'effraie pas le public. Hein. Et tout cela, finalement, fonctionne assez bien. Hein. Et au cours des années 30, les œuvres et le nombre des adhérents ne fera que croître dans le département. Hein.
Et j'imagine aussi au niveau national.
Voilà, donc au niveau national, on enregistre des chiffres tout à fait satisfaisants. Et c'est pourquoi, en décembre 1925, lors d'un congrès hein, qui trouve d'ailleurs un écho considérable dans la presse régionale comme dans la presse nationale, on a dit, voilà, désormais, la Ligue de l'enseignement va s'appeler la Fédération hein, nationale française des œuvres laïques, et qui rassemble toutes ces œuvres, hein, au sein desquelles le sport, on connaît l'UFOLEP, maintenant qui existe toujours, hein, donc l'Union de l'éducation physique et sportive, hein, donc qui joue un rôle tout à fait important. La Ligue, dans les Vosges, comme dans les autres départements, délivre le brevet sportif populaire, hein, et voilà. Et donc, c'est-à-dire c'est l'augmentation de ces activités qui fait que on éprouve la nécessité, hein, ou on voit la nécessité de créer des structures plus resserrées, hein, pour donner plus de solidité à l'ensemble. Hein. Et c'est seulement avec le congrès de Marseille en 1932 que l'on va dire il faut rendre quasiment obligatoire la création de fédérations au niveau des départements. Mmh. Et c'est ainsi que l'année suivante, hein, les dirigeants, si je peux employer ce terme, au niveau du département des Vosges, dire bon ben voilà,
on va le
7 juin lors de la fête des écoles, lors de la fête des pupilles de la nation, donc l'école des pupilles de Remoncourt, etc. On dit voilà hier 7 juin s'est réunie une commission et nous avons créé la Fédération des œuvres laïques au sein du département des Vosges. Voilà l'anniversaire.
On se rend compte que c'est le fruit d'un travail qui a commencé beaucoup sur plein de petits territoires au niveau local, qui petit à petit s'est nationalisé sans se centraliser, parce que c'est ça qui a été toute la difficulté de la chose,
oui.
Et ensuite qui a réussi à trouver un équilibre au niveau national pour proposer que ce soit un fonctionnement qui soit homogène sur l'ensemble du territoire et qui va amener petit à petit dans tous les départements cette fédération à venir s'installer. Et bien ce que je vous propose, Philippe Alexandre, c'est qu'on se retrouve nous dans quelques instants pour poursuivre et conclure autour de cette thématique. Ce sera pour la troisième partie de ce magazine. À tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et autour de la Ligue de l'enseignement des Vosges qui célébrait en 2023 son 90e anniversaire. Nous sommes nous en compagnie de Philippe Alexandre, professeur émérite à l'Université de Nancy et qui a étudié l'histoire de la Ligue de l'enseignement de la Fédération des œuvres laïques. Et avec lui, nous avons fait cet historique pour lequel il nous reste encore quelques éléments à apporter. Alors, 1933, c'est pour les Vosges. Est-ce qu'il y en a d'autres départements qui ont commencé avant les Vosges, dès 1932, quand ça a commencé à Marseille ?
Je ne serai pas en mesure de donner des détails, mais en 1932, on a émis ce vœu, parce que les congrès émettaient des vœux, hein, des ordres du jour avec des vœux, hein, c'est que dans l'ensemble du territoire, l'œuvre ou l'organisation avait prospéré.
Donc on peut se dire que c'est à peu près à cette même période que ça s'est développé un petit peu partout dans les départements limitrophes déjà aux Vosges, mais aussi sur l'ensemble du territoire.
Oui, je pourrais pas donner de chiffres exacts, enfin de toute façon que nous aurions oublié dans 5 minutes, mais les chiffres sont extrêmement prometteurs dans les années 30. Hein. On s'aperçoit que de 1933 à 1939... qu'il s'agisse donc du niveau national ou du niveau départemental, le nombre des adhérents, hein, comme le nombre des activités, des cercles, hein, a fortement augmenté. Hein, ce sont des chiffres tout à fait considérables. Je crois qu'en 1938, il doit y avoir quelque chose comme 500 000 adhérents adultes et autant de jeunes.
C'est un nombre assez impressionnant.
Ah, tout à fait impressionnant.
Ce qu'on constate aussi dans ce que vous nous avez apporté comme élément, c'est que les érudits, les notables, même un maire, font partie de ces personnes qui ont mobilisé, voire qui se sont engagés au sein de ces fédérations.
Oui. Je dirais que sans la participation très engagée des notables, des élus, qu'il s'agisse des maires et des conseillers généraux, ce sont quand même eux qui votent les subventions, en fin de compte, sans l'engagement des députés, hein, qui souvent, du reste, lors des congrès généraux de la Ligue interviennent, hein, de même que les ministres, montrent un lien étroit, du moins à certaines périodes, où les radicaux avaient le pouvoir, un lien étroit entre la Ligue et les élus au plus haut niveau national. Donc sans eux, rien ne se faisait. Et puis, il y a évidemment l'engagement, on va dire, des plus petits, hein, entre guillemets, et des instituteurs sur lesquels on compte. Hein, sur lesquels on compte absolument, mais évidemment, les autres, dans les années 30, Marc Rucard, hein, le député d'Épinal, hein, qui était garde des Sceaux, ministre de la Justice, enfin, qui a joué un rôle tout à fait important lors des grandes manifestations laïques des années 1930. Donc, sans l'apport, j'allais dire, à haut niveau, hein, et à la base de personnalités très, très, très engagées, la Ligue n'aurait rien pu faire. Il y a encore un autre élément qui est important. C'est la presse. Hein, on l'a vu sans les grands organes de presse. Quand, par exemple, la Ligue renaît à Épinal en 1909, hein, l'année précédente a été créée l'Union républicaine, hein, qui est un journal radical, hein, et dont le rédacteur en chef, Georges Bourdeau, fait partie comme secrétaire général du comité de la Ligue spinalienne. Hein. Donc, on voit les liens également étroits, hein, entre les organes de presse, évidemment, favorables, et puis la Ligue. Hein. Voilà donc les trois composantes qui font que la Ligue a pu s'appuyer sur des soutiens solides.
Alors, vous avez été, entre guillemets, sollicité par la Ligue de l'enseignement des Vosges pour faire ses recherches sur l'histoire de la Ligue et qu'est-ce qui a amené à sa création. Vos recherches, vous les avez arrêtées, vous avez décidé de les arrêter sur quelle période, sur quelle année, 1933 directement ou un peu plus tard? Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre que vous pourriez nous apporter?
Je suis allé jusqu'en 1939.
D'accord.
Hein, parce que la Ligue a joué également un rôle important lorsque j'appelais les grandes manifestations laïques il y a quelques instants. Le cinquantenaire de l'école laïque de Jules Ferry, hein, évidemment, à Épinal, avec Léon Schwab. Hein, le cercle de la Ligue spinalienne lance une souscription au mois de mars 1931 pour un buste, hein, pour Jules Ferry. buste qui sera installé devant l'école Victor Hugo, maintenant. Hein, donc, c'est l'avenue de la gare à l'époque, l'avenue Victor Hugo maintenant. Et des ministres viennent, il y a des discours. Léon Schwabre fait tout l'historique de la Ligue d'Épinal depuis 1866. Hein. Donc ça, c'est un grand moment. Ça rassemble des milliers de personnes. Et quand on va dans la presse et qu'on regarde les listes de souscription, on voit exactement que il s'agit de centaines et de centaines de personnes. Ces listes que l'on peut découvrir dans la presse spinalienne, dans l'Express de l'Est, organe radical, hein, mais qui permet quand même de bien voir, voilà, quelle partie de la population spinalienne a soutenu ce cinquantenaire de la Ligue de l'enseignement. Et puis surtout le centenaire de Jules Ferry en 1932, qui est également un grand moment. Hein. Et la Ligue a été évidemment fortement impliquée, en dehors évidemment de la Société des Amis de Jules Ferry à Saint-Dié, a été fortement impliquée dans ces grands moments, dans ce qu'on appelle les grandes fêtes laïques.
Donc voilà pour cette histoire, et on voit les débuts, j'ai presque envie de dire en fanfare, hein, finalement, de la Fédération des œuvres laïques, qui deviendra ensuite avec le temps la Ligue de l'enseignement des Vosges, mais qui reste toujours Fédération des œuvres laïques. On retrouve encore cette petite appellation, même si on a plus adopté aujourd'hui le diminutif, la folle, pour en parler. Philippe-Alexandre, je vous remercie pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Lorraine à Nancy, et vous êtes venu nous parler de ces recherches que vous avez faites sur l'histoire de la Fédération des œuvres laïques, comment elle s'est créée, comment elle est venue s'implanter dans les Vosges. Et je vous remercie pour toute cette présentation. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour parler d'autres thématiques, parce que j'ai vu que vous aviez une liste de plus de 200 thématiques sur lesquelles vous avez écrites, et il y a sûrement encore plein de choses à aller y piocher pour pouvoir les présenter à nos auditeurs.
Ben, volontiers, et merci de votre invitation.
Avec plaisir, je vous dis à très bientôt.
À bientôt.
Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle que ce magazine est disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Vous allez dans la rubrique podcast et vous choisissez l'invité. Et moi, je vous dis à bientôt sur cette même fréquence pour évoquer un tout nouveau sujet.